au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Est-ce que vous croyez au mythe du triangle des Bermudes, mesdames, messieurs? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Christian, on a parlé de nombreuses disparitions qui ont eu lieu dans ce triangle des Bermudes. On va s'attarder maintenant au vol 19, le 5 décembre 1945.
Voilà, dont on soulignera l'événement, donc mardi prochain, 5 décembre, 83 ans. C'est sans aucun doute la disparition qui a le plus marqué l'histoire du triangle des Bermudes. Et tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est quand même énorme. Et cet événement a même inspiré une séquence dans le film La rencontre du troisième type de Steven Spielberg, oui, en 1977. Donc, ramenons-nous un peu à l'époque. Nous sommes le 5 décembre 1945. La Deuxième Guerre mondiale vient de prendre fin. Les Américains continuent de faire des manœuvres avec des bombardiers. Et ce jour-là, donc 5 décembre 1945, on va mandater 5 bombardiers, des TBM-3 Avenger, donc des gros appareils, des gros bombardiers. On va les mandater pour une mission d'entraînement. Les appareils doivent se rendre. Le vol est inscrit dans les registres de la US Navy comme étant le vol 19. Mmh. Donc, il doit compter initialement 15 membres d'équipage, 3 personnes à bord de chaque avion. Mais ce matin-là, un type qui s'appelle Alan Costner va se déclarer malade. Il est cloué au lit avec une diarrhée. Et sans le savoir, ça va changer le cours de sa vie. Donc, Costner obtient une dispense pour participer au vol. Donc, les appareils décollent. Il est à peu près 12h30. La température est de 18 degrés au sol, des vents légers. Donc, un temps parfait pour la navigation. Les avions doivent donc se diriger, parce que quand on regarde une carte de la région, entre la Floride et les Bahamas, il y a tout un groupe de petits îlots qu'on appelle les Chicken Soul. Et c'est dans ces îlots, on a laissé la carcasse d'un vieux navire qui est là. Les 5 bombardiers, les 5 Avengers doivent survoler la carcasse en question, la bombarder, donc une manœuvre, un exercice, et ensuite revenir à la base. Cette première partie du vol se passe très bien. Ici, mentionnons tout de suite une fausseté qui est souvent racontée à propos du vol 19. On dit souvent « Ah, il s'agissait de pilotes expérimentés ». C'est pas du tout le cas ici. On est en présence essentiellement d'élèves pilotes. Ce sont des jeunes recrues. Il n'y a à bord, dans l'escadron, il n'y a qu'un pilote expérimenté, c'est le leader, le dirigeant du vol.
Parce que la mission, de toute façon, était assez simple, bombarder une carcasse.
Voilà, et il ne faut pas se le cacher, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement militaire avec de jeunes recrues. Donc, on a un pilote expérimenté, c'est le commandant du vol, le lieutenant Charles Taylor. Mais il y a une petite particularité à propos de Charles Taylor qui va jouer énormément sur l'avenir du vol. Charles Taylor est un nouveau venu à la base de Fort Lauderdale. Ce type-là a fait tous ses entraînements dans les Key West, dans le sud de la Floride. Ouais. Il vient de débarquer à Fort Lauderdale depuis quelques jours. Donc, ce matin du 5 décembre, nos 5 bombardiers décollent de Fort Lauderdale. À 12h30, tous les appareils sont en vol. La première partie de la mission se passe très bien. On bombarde la fameuse carcasse. Et comme on est à quelques jours de Noël, il y a une prime de Noël qui est comptée sur le nombre d'heures de vol. Or, comme on est à quelques jours de Noël, Charles Taylor propose au pilote en disant « Nous avons encore plusieurs heures d'autonomie de vol devant nous. Est-ce que ça vous tente de retourner immédiatement à la base ou de rester en l'air? »
Faire un peu plus d'argent.
Un peu plus d'argent. Donc, la prime de Noël va être conséquente du nombre d'heures passées en vol. Alors, les pilotes acceptent tous de continuer à voler. Il faut quand même savoir que si au départ de Fort Lauderdale, la température était idéale, au large, des cellules orageuses sont en train de se développer, des vents forts également commencent un front de vent et d'orage se dirigeant vers la côte est. Donc, on reste en vol. Et puis, là, les choses vont commencer à mal fonctionner. Aux alentours de 15h40, Charles Taylor, donc toujours le commandant du vol, c'est le leader, hein, donc on n'entend pas trop parler des autres pilotes, c'est le leader. Il contacte un autre avion en vol et là, il lui dit que quelque chose d'anormal se passe. Il dit « Nos compas et nos cadrans sont complètement déréglés. Je crois me trouver au-dessus des Key West de la Floride. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés ici. Nous sommes complètement perdu. » Et là, il demande à ce qu'on l'aide à retrouver la côte. Il y aura donc de ces échanges qui vont y avoir entre Taylor, les tours de contrôle. Il y aura deux tours de contrôle, celle de Banana Rivers et celle de Fort Lauderdale, qui vont contacter l'escadron en vol, le vol 19, qui visiblement là est complètement à l'aveugle. Il ne sait plus où il est. On ne sait pas.
Et comment les compas peuvent-ils être déréglés?
C'est ce que Taylor dit. Il dit nos compas sont complètement déréglés. On va en venir ensuite à l'explication possible.
Parfait.
Mais Taylor dit les compas sont complètement déréglés. Je ne sais plus où ce que je suis. Alors, on va tenter de ramener le vol vers la côte de la Floride sans vraiment y parvenir. Et puis, aux alentours de 18h15, un pilote, on ne sait pas lequel, il ne se mentionne pas, mais on l'entend distinctement, le pilote dit, et il ne s'agit pas de Taylor, donc visiblement, il s'agit d'un pilote, une des jeunes recrues qui dit « Je crois que nous sommes au-dessus du golfe du Mexique, mais depuis combien de temps est-ce qu'on vole dans cette direction? Nous allons continuer de voler dans cette direction parce que j'ai l'impression qu'on aura plus de chances d'être retrouvés près de la côte. » Il ne s'identifie pas. Les lettres d'appellation de la base de Fort Lauderdale, c'est FT. Donc FT-24, FT-26. Donc, les appareils ont tous comme lettre d'appellation FT. Ce pilote-là ne s'est pas mentionné, mais c'est visiblement l'un des membres du vol 19. Et puis, à 19h04, on sait qu'on a un opérateur radio d'un des appareils, un certain Joseph Tipton Bossy, qui va contacter la tour de contrôle de Fort Lauderdale. Il va simplement donner ses lettres d'appellation FT-FT. Et c'est tout. Les 5 bombardiers Avengers ne reviendront jamais à Fort Lauderdale. Le soir même, au moment d'ailleurs où on reçoit le message de Bossy, il y a déjà des équipes de recherche qui sont en place. Donc, à partir de 19h, on va envoyer des avions et des bateaux en mer dans l'espoir de retrouver l'escadron perdu. Aux alentours de 19h12, on va détecter une déflagration. On va perdre ce soir-là un autre avion, un gros Martin Mariner, qui est un appareil conçu pour des missions en haute mer. Et vers 19h12, des gens sur un bateau au large de Miami vont enregistrer une forte détonation dans le ciel et une boule de feu. Visiblement, le Martin Mariner a explosé. Ce qui n'est pas trop étonnant parce que c'était des avions dont l'intérieur se remplissait parfois en vapeur d'essence. Et un court-circuit pouvait entraîner l'explosion de l'avion. Certains, d'ailleurs, des militaires craignaient d'embarquer sur des Martin Mariner. Ils l'appelaient les bombes volantes. Hein. C'est un peu le nom qu'ils avaient. Donc, on suppose que le Martin Mariner a explosé. Mais tu comprendras que la coïncidence est énorme. Ce jour-là, on perd 5 bombardiers Avengers, 14 membres d'équipage, et le même soir, on perd un Martin Mariner qui explose au large de Miami.
Oui, mais le Martin Mariner, ça me va comme explication, Christian. Ouais. Moi, je comprends l'avantage, mais... Le vol 19.
Ouais, et là, on est vraiment là, dans l'énigme. Et là, il y a toutes sortes de rumeurs qui vont commencer à circuler. Et dans les milieux des amateurs d'étranges, on va rapporter des éléments. On dit, Charles Taylor aurait laissé sous-entendre, à un moment donné, durant le vol, il aurait appelé la tour de contrôle en disant, ne venez pas nous chercher, nous entrons dans l'eau blanche. J'ai l'impression qu'ils viennent d'une autre dimension. Tout ça, c'est de la foutaise. Hein? On ne retrouve pas ça dans les communications radio.
Phew.
Donc, on a simplement ces communications où les gens semblent perdus. Le soir même, donc, on perd un Martin Mariner. Les équipes ont beaucoup de difficultés. Quand on regarde tout le rapport d'enquête de la disparition du vol 19, il est accessible aux archives nationales à Washington, D.C. et au bureau de la U.S. Navy. Quand on regarde ce qu'ils ont fait, donc ce soir-là, ils ont d'abord envoyé des navires pour essayer de retrouver le vol 19. La mer était démontée, les vents étaient puissants, donc on a dû suspendre les recherches. Elles ont repris le lendemain. On a patrouillé un secteur de 350 000 km². On n'a rien retrouvé. L'hypothèse que propose la US Navy maintenant, c'est qu'il s'agit d'une erreur de pilotage. Taylor, qui avait volé au-dessus des Key West, je te l'ai mentionné.
Il n'était pas vraiment là.
En fait, il se trouvait bel et bien au-dessus des Bahamas. Et à un moment donné, pour une raison quelconque, il s'est mis à croire que les îles qui étaient en dessous de lui étaient les Key West. Mais c'était les Bahamas. Alors, à partir de là, évidemment, quand il regardait ses compas, il avait la certitude que les compas étaient déréglés. Comment les compas pouvaient-ils lui indiquer qu'il volait vers l'est si en réalité il se trouvait au-dessus des Key West. On aurait dû lui dire qu'il volait vers le sud. Alors, à partir de cette confusion, il va entraîner avec lui les autres membres de l'escadron. Dans la confusion. Et à un moment donné, comme il croit qu'il vole au-dessus des Key West, il dit « je vais remonter vers le nord ». Mais comme il volait en réalité à l'est de la Floride, remonter vers le nord le ramenait vers l'Irlande. Donc, tu comprends qu'il n'y avait aucune possibilité pour les appareils de rejoindre Terre quelque part. On suppose que les avions ont dû se crasher tous en même temps parce que les avions...
En panne d'essence.
Okay. Lorsque le carburant était épuisé, les pilotes ont probablement pris la décision de plonger à la mer ensemble parce qu'ils avaient plus de chances de survivre en étant ensemble. Donc, ils ont crashé l'ensemble des 5 appareils quelque part au large, probablement de la Virginie ou quelque chose comme ça.
Voilà une explication rationnelle. Ça me rassure parce qu'avant la pause, on a l'impression que tout était mystérieux à 100%.
Faut quand même se rappeler qu'on n'a jamais, avec les années, plusieurs personnes ont dit on a retrouvé des débris. Mais dans la réalité, les numéros, c'est vrai qu'on a trouvé dans le fond de la mer des avions Avengers, mais les numéros ne correspondent pas à ceux du vol perdu. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais rien retrouvé du vol 19.
On a Vincent qui est en ligne et on a une question de la part de Vincent. Vincent, restez là. On vous prend tout de suite après la pause, dans 2 minutes. Et après la pause également, est-ce qu'il y a plus, vraiment plus de disparitions dans le triangle des Bermudes que dans un autre passage maritime et aérien similaire? On revient dans 2 minutes.